vous allez suivre est une rediffusion.
Il est midi et demi, et qu'à cette heure-là, on sera en pleine période d'exploitation, il passerait des milliers de skieurs, et là, l'oiseau, en pleine journée, il est sous le télésiège, il est en train de s'alimenter.
RFI.
Et les oiseaux, ben, ils ont réinvesti l'ensemble des zones qui leur sont favorables.
Grand reportage.
Donc là, on va quand même essayer de s'approcher, parce que là, on est quand même relativement loin, on va s'approcher d'une espèce qui n'est pas trop farouche, pour pouvoir faire une belle petite observation quand même, voir cet oiseau tout blanc au milieu du manteau neigeux, c'est quand même un privilège.
Il y a un an débutaient les confinements stricts dans de nombreux pays, avec parfois des effets surprenants sur la biodiversité. En clair, certains animaux élargissaient leurs espaces de vie. Un constat particulièrement visible en ce moment dans les Alpes, où les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Le magazine de la rédaction vous emmène donc à la recherche du lagopède alpin, autrement appelé perdrix des neiges, qui s'épanouit dans les montagnes enneigées. Et pour trouver cet oiseau rare, il faut prendre de l'altitude. À la recherche du lagopède alpin, c'est un grand reportage d'Alexis Bédu.
Là, on a sorti l'antenne pour essayer de repérer les oiseaux qui sont dans le domaine skiable, disons l'oiseau qui est dans le domaine skiable et qui est équipé d'un GPS.
Bertrand Muffat-Joly a le regard aiguisé. Dans ces montagnes, rien ne lui échappe.
Et pour le moment, on n'a pas de signal.
Tel un traqueur d'empreintes de pas dans la neige, les oreilles tendues vers le moindre bruissement.
C'est très possible qu'il soit dans une vallée derrière et qu'on soit obligé d'aller en crête pour le toucher. Donc là, on n'a aucun signal.
Bertrand Muffat-Joly est né ici, en Haute-Savoie, dans le nord des Alpes françaises.
Toujours rien.
Il est aujourd'hui agent de l'Office français de la biodiversité. Parmi ses missions, compter les animaux, observer les changements environnementaux.
Je parle comme je sens, hein. C'est parfait.
Les skis de randonnée font leurs traces dans la neige poudreuse. Bertrand Muffat-Joly a l'habitude, il se déplace à ski quasiment quotidiennement sur ses pentes à près de 2000 mètres d'altitude. L'homme a même eu une carrière internationale de biathlète dans les années 90. Il est un peu difficile à suivre.
On en est où ?
Là, on a fait 500 mètres de dénivelé, hein, donc on a mis un petit peu de temps, mais ça a permis de pouvoir bien parcourir le domaine skiable. Et là, on arrive dans les habitats propices pour le lagopède alpin. Et ce qui est surtout super intéressant aujourd'hui, c'est que là, on est à proximité d'un télésiège qui, normalement, devrait être en pleine période d'exploitation. On est un week-end, en plein mois de février, et il n'y a pas une trace de ski. Là, ce qu'on voit bien devant nous, là, il n'y a pas une trace de ski dans l'emprise, sous le télésiège. Normalement, à cette heure de la journée, en période d'exploitation, on serait déjà à 100% d'utilisation du domaine skiable. Donc là, en l'occurrence, il n'y aurait plus un mètre carré qui ne serait pas skié. Et l'autre moment, c'est intéressant, c'est que là, on arrive sur la zone, et les seules choses qu'on voit, c'est des traces de faune sauvage, dont notamment des traces de lagopède alpin.
Donc, la perdrix des neiges.
La fameuse perdrix des neiges, comme vous l'appelez si bien. Pour l'instant, on n'en a encore pas vu de manière visuelle, mais on va s'approcher des traces en étant suffisamment loin pour ne pas les déranger. Et on a quand même de bonnes chances de pouvoir observer un ou deux oiseaux. Normalement, ils devraient être en groupe.
Eh bien, allons-y.
On y va. Vous voyez là-bas, il est là-bas au bout. Et là, il est vraiment posé dans la neige et on sent vraiment que c'est son milieu. Hein, et il est... Vous voyez, là, il commence un petit peu à bouger. Il se gratte avec le bec, là. Il est en train de remettre un petit peu son plumage en place. Là, on voit, il bouge la tête. Il est toujours face à nous. Et là, c'est bien évidemment que ce spectacle-là, on ne pourrait pas du tout en profiter à cette période. Une population qui faiblit, effectivement. On travaille uniquement au travers de tendances, au travers de comptages, notamment au travers des comptages printaniers. Et sur les 11 zones de référence qui sont comptées tous les deux ans, il y en a 7 qui montrent vraiment un fléchissement fort des populations. On peut réellement dire que l'espèce... Il y en a un autre juste dessous. Vous ne l'aviez pas vu, regardez. Il est en train... Un troisième coq, là, qui est juste à côté du petit buisson, qui est en train de s'alimenter aussi, qui vient de sortir de la neige. Donc là, on a 3 coqs. L'espèce est sur la liste rouge française de l'UICN. En 60 ans, elle a perdu un tiers de son aire de répartition. Donc à terme, elle est vraiment menacée. Et la principale menace, c'est sa perte d'habitat. Et à terme, ce sera le réchauffement climatique.
Messieurs, vous avez vu ? Là !
Dans cette combe, sorte de petite vallée creusée dans la montagne, un lagopède prend un bain de soleil.
Sur les rochers.
Deux skieurs, croisés lors de la montée, passent justement à quelques mètres, mais sans le remarquer.
Bonjour.
Vous savez tout à l'heure, c'est les...
Ouais, exactement.
Tout à l'heure. Donc là, vous avez un oiseau juste devant vous, là.
Putain, il est où ?
Ah ben, est-ce qu'on vous le dit où il est ou pas, ou alors vous le cherchez ? Là, vous êtes passé relativement loin... Et donc il y a une tolérance par rapport à la distance. Ouais. L'oiseau n'a pas bougé du tout. Si vous étiez approché de 10 mètres de plus, vous l'auriez fait péter.
Là, je ne vois pas.
Et ben, il est juste devant nous, là. On va prendre la... Il y a un siège qui dépasse dans le ciel.
Ouais.
On revient donc dans notre axe.
Ouais.
Et quand on arrive sur la barre, on a la barre devant nous, là.
Ouais.
Donc après, on a une trace sur la barre qui glisse, là.
Ouais.
On a une trace. Et ben, on suit la trace. Et après, si on suit la trace et qu'on continue à peu près à 7 heures, il y a un pin dans la barre, là.
Ouais.
Et ben, il est juste au-dessous du pin, dans la barre, au soleil. On le voit, il est bien, bien blanc, là.
D'accord, je vois un truc blanc, mais alors je sais pas si c'est ça.
C'est ça.
Ouais, ouais, moi aussi, blanc, je vois un
très blanc,
blanc
avec
ouais.
un tout petit liseré noir.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
Une grosse boule bien blanche, là.
Ouais.
Donc, c'est un lagopède qui est... En plus, là, on est dans la fameuse combe des perdrix. Hein.
Vous êtes du coin, messieurs ?
Moi, je suis d'Aïs, moi, je suis natif de la vallée de l'Arve, donc j'ai tout le temps entendu parler de la perdrix blanche. C'était d'ailleurs c'est le résultat de cette piste qui est synonyme de la combe des perdrix, qu'on appelle la combe des perdrix, qu'on a tout le temps appelé la combe des perdrix. Et effectivement, moi, j'ai vu des perdrix il y a quelques années. Mais j'en ai jamais revu depuis et ça me fait plaisir de voir un connaisseur qu'on vient de se découvrir tout à l'heure au départ des remontées et de nous parler des perdrix et qu'il y en ait encore parce que c'est vraiment que j'en ai pas revu quoi.
Un silence de cathédrale pour apprécier ce spectacle. L'oiseau face à nous gratte dans la neige pour se réchauffer. C'est une protection pour lui. Parfois, quand il fait moins 20 degrés dehors, dans son igloo, la température atteint facilement les moins 4.
Quand on parle de réchauffement climatique, on voit une ours polaire avec son ourson sur un iceberg qui dérive. Effectivement, au niveau de l'Arctique, hein, y a un réchauffement qui est très très prononcé. Par contre, il faut aussi qu'on se préoccupe de ce qui se passe chez nous. Et en l'occurrence, chez nous, le lagopède alpin est probablement l'espèce qui est la plus significative pour montrer le réchauffement climatique dans l'étage alpin. On peut considérer qu'en France, c'est l'espèce la plus frigorifile. Donc je dis frigorifile, donc c'est l'espèce qui apprécie le plus le froid et qui vit le plus froid, et surtout toute l'année.
Des chamois traversent une barre rocheuse, dérangée par deux snowboardeurs qui descendent un versant hors piste de la montagne. Police de l'environnement, peut-on lire au dos de la combinaison de Bertrand Muffajoli. Il est assermenté pour dresser des amendes à ceux qui ne respecteraient pas le code de la montagne, mais la répression, ce n'est pas trop son truc. Il parvient tout de même à rattraper les snowboardeurs. Un débat s'engage.
Le problème, ça va être du flicage.
Mais je suis d'accord. Dans ce cas-là, la montagne, aujourd'hui, c'est montagne libre pour tout le monde. Il n'y a aucune réglementation. C'est clair
que... Il y a peu de réglementation, on va dire. Parce que quand on est dans des espaces protégés, si on passe derrière, il n'y a pas de remontée mécanique, c'est quand même... Il y a quand même une notion de préservation.
On peut aller à Salles aujourd'hui.
On peut aller à Salles.
Salles, c'est le diminutif de Sallanches, une des villes de la vallée, accessible à ski depuis Flaine, mais uniquement hors piste.
Vous pouvez descendre à Salles, tirer un rappel, faire une fondue avec 40 de personnes et du bruit, ça dérangera que les animaux. Mais il n'y a rien qui vous l'interdit de le faire. Je pense qu'arrivé un moment, si on veut vraiment protéger la faune et la flore, il faut toucher le portefeuille. C'est-à-dire, nous on y va parce qu'on a le droit d'y aller, par exemple. La pente sud, on aurait 1000 euros d'amende pour faire une pente sud. Ben, on la verrait peut-être autrement, on se dirait ouais. Ouais, mais on le ferait pas souvent, quoi.
Ces snowboardeurs sont des habitants des villages alentours. Moniteur de ski, quand les remontées mécaniques sont ouvertes, ils connaissent bien la montagne et l'ont vu évoluer.
Et c'est aussi sympa de voir les chamois gambader dans la montagne et puis d'être pas loin. Mais effectivement, après, on ne peut pas fermer le domaine. Le domaine est là, quoi. Tant qu'il y aura les remontées, tant qu'il y aura... Il faut qu'on puisse profiter, qu'on puisse partager l'espace.
Et au niveau des constructions, ouais, ça n'arrête pas. C'est une catastrophe. Comme tout le monde le dit, on va droit dans le mur, c'est foutu. Là, la faune, la flore, c'est bien de vouloir les protéger, mais franchement, moi, j'ai pas de...
C'est super bien.
J'ai peu d'espoir, quoi. Oui, ça va aller qu'en s'empirant, ce qui s'est pas fini. Ils vont construire encore. Il y a des projets de construction, il y a un projet de le Funiflen, là, qui part carrément de Maglan, qui monte les gens en cabine. Ça va comme dans le monde, ça va en progressant, en construisant plus.
Le Covid aura peut-être quand même calmé tout le monde. Il y a peut-être quelques années, cette histoire que ça va refroidir.
Ouais. Je suis même pas sûr.
La station de ski de Flaine est sortie de terre en 1969 au cœur d'un gigantesque cirque naturel.
Inauguration ce matin de la nouvelle station de sport d'hiver de Flaine, située en Haute-Savoie. Monsieur Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Tourisme, a effectué une visite complète des installations avant de confier à Christiane Polfort ses impressions sur les problèmes posés par la création d'une station de sport d'hiver.
La création d'une station est une aventure. Et c'est une aventure qui doit être livrée à l'initiative privée, car les collectivités publiques, qu'elles soient locales ou qu'il s'agisse de l'État, ont déjà toutes les peines du monde à assurer le financement des équipements de base, et ce n'est par conséquent pas à elles de faire des stations.
Monsieur Chalandon a d'autre part précisé qu'il donnerait son appui à la construction d'une autoroute privée reliant Chamonix, Genève et Lyon.
En face de nous, le plateau dit de l'Arbaron, sur lequel un important projet de téléphérique viendra bientôt se greffer. Bertrand Muffajoli.
C'est pas l'aménagement en tant que tel, puisque c'est un ascenseur qui devrait permettre de relier la vallée pour venir sur le sommet de l'Arbaron.
Ça va être sorti de l'autoroute, un parking qui nous mènera à cet ascenseur et on pourra rejoindre le point culminant sur lequel nous sommes directement depuis la sortie de l'autoroute, quasiment sans déchaussée.
Tout à fait. Donc le risque quand même à terme, c'est qu'on va se retrouver de nouveau avec une saturation du domaine skiable. Quand on parle de partage, il y a peut-être un moment aussi où on va dire, il faudrait qu'on soit en mesure de dire que la capacité d'accueil d'un domaine skiable est atteinte et qu'on évite de faire venir des flux de skieurs de plus en plus nombreux.
Ouais, donc c'est fini, on est en bas. On va plier les skis.
On va déneiger un petit peu quand même, hein. Parce que ramener de la neige en souvenir, elle va pas durer longtemps. Hein. Elle vous a plu cette descente ?
C'était bien quand même. Hein.
Ouais.
On monte dans la voiture.
On monte dans la voiture.
Allez.
Avec encore un petit peu de neige au programme, on regardera la météo dans quelques instants. En tout cas, décidément, l'hiver n'a décidément pas dit son dernier mot. On écoutera Clara Luciani, The Wiz, voilà pour un petit cocktail.
Il faut régler avec la manette centrale. Hein.
Ouais.
Vous le voyez là-bas, il était sous les grands arbres, il traversait. Alors. Vous voyez ? Il traversait.
Ah oui, je le vois.
Donc là, on a une caméra thermique qui nous permet, on est en pleine nuit, et on observe la faune qui se balade, la faune sauvage, qui se balade au milieu des maisons. On est vraiment juste à côté de chalets, et il y a un renard qui en effet traverse.
Donc là, ce qui montre encore bien, c'est qu'à partir du moment où on arrive le soir, que la faune sauvage reprend un petit peu ses quartiers. Et là, on est un petit peu dans la même configuration qu'en ville. On a plus d'animaux qui séjournent en ville et qui profitent de la nuit pour reconquérir des espaces. Alors là, en montagne, c'est un petit peu différent, puisque c'est l'homme qui s'étend toujours de plus en plus et qui vient grignoter un petit peu leur territoire. Donc, eux, malgré tout, ils essayent de rester au milieu.
des arbres là qu'on serait un petit peu dissimulé. On se mettra contre les troncs et je vais faire des bruits de souris. Normalement, ça les fait venir. Essayer de pénétrer un peu leur intimité. Et le soir, je trouve que c'est assez magique quand même de pouvoir... En plus, les animaux sont beaucoup moins farouches le soir. Hein. Donc quand on se déplace, en plus avec un sol enneigé, on peut s'approcher relativement facilement.
Comment elle vous est venue, cette passion de l'observation de la faune ?
Elle est venue parce que je suis une famille de chasseurs et ça a toujours été ancré dans notre nature. Dès tout petit, j'avais la chance de pouvoir sortir avec mon père régulièrement, avant tout pour observer les animaux à toute période de l'année. Aussi aller à la chasse quand c'était la période. J'ai toujours, c'est une activité que j'ai pratiquée quand j'étais jeune. Et après, de fil en aiguille, j'ai pu passer le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et puis intégrer ce corps. Ouais.
J'ai entendu du bruit.
Des dessous, il peut y avoir des chevreuils en train de manger dessous là. Ils ne sont pas être bien loin là parce que ça a été fait durant la journée, même ce soir. Là on voit l'herbe a été grattée.
C'est un enregistrement de la Goupède avec Bertrand Muffajoli. C'est particulier comme cri.
C'est vraiment un chant très très aigu, très très guttural. Et là, c'était un chant de coq typique, qu'on peut aussi bien entendre quasiment à toute période de l'année. Les mâles peuvent émettre ces chants en contact. Aujourd'hui, on a eu quelques petits chants comme ça, durant notre petit périple.
À la recherche du lagopède alpin, un grand reportage d'Alexis Bédu, réalisation Pierre Chaffangeon.